Je m'appelle Lynn Chanel, je suis en CM2, j'aime chanter et plus tard j'aimerais être joueuse de tennis.
Bonjour, je m'appelle Lour, j'ai 10 ans, j'aime bien le chocolat. Au futur, j'aimerais bien être vétérinaire.
Je m'appelle Ahmed, j'aime la musique et quand je serai grand, je voudrais être joueur de foot, gagner tous les trophées.
Je m'appelle Mary, j'ai 10 ans, je suis dans une classe de CM1, CM2 et je suis en CM2. Plus tard, j'aimerais devenir architecte parce que j'aime bien construire.
Bonjour, je m'appelle Naïm, j'ai 10 ans et quand je serai grand, j'aimerais faire footballeur.
Bonjour, je m'appelle Louise.
Bonjour, je m'appelle Lina.
On est des élèves de l'école des DIM.
On a fait un atelier radio. Aujourd'hui, c'est lundi 17 février et on est en 2020.
Déchets. Plastique.
Déchets spatiaux. Pollution.
Les déchets.
Désastre.
Plastique.
On pose des questions aux personnes dans la rue sur la pollution.
Bonjour, la pollution, qu'est-ce que ça vous évoque ?
Le réchauffement climatique, des tempêtes, des désastres écologiques.
La fumée, les voitures.
Ça m'évoque beaucoup de peine.
Qu'est-ce que ça évoque, la pollution ? Eh bien, ça évoque tous les graves problèmes d'aujourd'hui qui concernent le réchauffement du climat et la détérioration
nature.
De notre belle nature, exactement.
Pour moi, la pollution, c'est jeter plein de petites saletés sur la planète.
C'est pas une chose qui est très agréable, voilà.
Quel genre de pollution connaissez-vous ?
La pollution due aux usines.
Les papiers qui traînent partout. La pollution des mers avec les plastiques, naturellement.
La pollution de l'air, de l'eau, la pollution sonore,
les avions.
La pollution industrielle.
Les déchets quotidiens.
Ressentez-vous la pollution à Bourg-en-Bresse ?
Non, pas spécialement. À Lyon, par contre.
Pas trop, non. Oh non. Je suis plutôt contente de ma ville.
un petit peu, pas beaucoup.
À Bourg-en-Bresse, non, pas trop, si ce n'est cette petite pollution du quotidien. Les plastiques qui se promènent de partout et qui s'envolent et qui vont dans la ressouse. Après, au niveau industriel, peut-être qu'il n'y a pas trop de pollution.
Ah oui, je trouve que Bourg-en-Bresse, c'est pas très propre.
Bah forcément, visuel, des fois des odeurs. Oui, il y en a forcément de la pollution à Bourg, même s'il y a beaucoup de recyclage, il y a encore des efforts à faire. Hein.
Pensez-vous que c'est un sujet grave ?
Très, très grave.
Et pourquoi ?
On ne pourra pas vivre, on ne peut pas vivre sans notre terre, on en a besoin.
Ben oui, c'est un sujet grave qui devrait concerner le monde.
Un sujet très grave. Il faut avoir le respect de la nature et de beaucoup de choses.
Si on ne s'en préoccupe pas maintenant, ça va être pire en pire.
Il faut absolument préserver la planète.
D'autant plus qu'il y a de plus en plus de grosses usines qui polluent énormément et que de planètes dans lesquelles on peut vivre, il n'y en a qu'une seule.
Bah oui, c'est grave parce que on ne peut plus respirer. À un moment, on ne pourra plus respirer. Et nous, on n'aura plus l'odeur de la nature. Et ça, c'est pas bien.
Il y a certaines espèces animales qui peuvent disparaître.
Pour conserver les animaux, les forêts.
À votre avis, la pollution est-elle dangereuse pour les animaux ?
Pour certains animaux, je suppose que oui, comme les ours polaires avec la fonte des glaces.
Pour tout être vivant, les insectes, ce qu'on appelle la biodiversité.
Oui, certains animaux ont des poumons encore plus petits que nous, plus fragiles, et surtout pour les oiseaux, c'est très 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 dangereux.
Faites-vous des efforts pour arrêter la pollution ? Si oui, lesquels ?
D'abord, pas jeter n'importe quoi dans la rue.
On essaye de faire des efforts. Par exemple, on roule à vélo quand c'est possible. On essaye d'acheter le moins possible de plastique.
Alors moi, je commence bien évidemment par trier, ce qui pollue beaucoup moins. Je n'ai qu'un seul véhicule.
J'achète des produits qui ne sont pas polluants.
Bah oui, je fais du recyclage à mon niveau et puis du compost. pour tout ce qui est organique.
Merci beaucoup, au revoir.
Ben oui, c'est moi.
Au revoir.
Merci beaucoup, c'est gentil.
Ce qui pollue le plus dans le monde, c'est les déchets.
C'est le plastique, le pétrole et l'aluminium.
Si j'étais présidente de la République, pour faire disparaître la pollution, je ferais une association qui pourrait ramasser les déchets. Et je payerais tous les gens qui ramassent les déchets.
Quand je vois des déchets par terre, bah, je me dis, mais qu'est-ce que ces gens sont sales? Ils polluent la terre et la font mourir et ils s'en fichent.
Les animaux souffrent de la pollution car nos déchets polluent.
Les animaux souffrent de la pollution car ils veulent pas la lumière.
Et si j'étais présidente de la République, pour faire disparaître la pollution, je remplacerais le plastique par du plastique de bambou et je mettrais plus de poubelles.
C'est quoi du plastique de bambou ?
C'est du plastique fait à partir de bambou et ça ressemble vraiment à du plastique.
Mais si on fait des feuilles à partir de bambou, les pandas sauvages vont se nourrir de quoi ? Parce que parfois ça leur sert de nourriture et ça leur sert de refuge aussi.
On en fait pousser, on prend pas ceux qui sont dans la nature mais on en fait pousser.
Bonjour, je m'appelle Sophie et je travaille à France Nature Environnement. Donc c'est une association de protection de la nature.
Quel est votre travail ?
Alors, je suis chargée de mission biodiversité. Donc en fait, mon métier, c'est de créer des projets qui vont aider à préserver la nature et l'environnement. Et donc de les monter, de les animer en partenariat avec d'autres personnes, par exemple des communes.
Où travaillez-vous ?
Donc l'endroit en fait physique de l'association donc est à Bourg-en-Bresse.
Est-ce que vous vivez à l'intérieur d'un environnement ou à l'extérieur ? L'intérieur du travail ou vous travaillez dehors ?
Ah, et ben en fait les deux. Donc il y a beaucoup de travail qui se fait en intérieur donc parce qu'on va créer des projets donc il faut y réfléchir et ensuite on va rencontrer les personnes qui sont sur le terrain. Donc ça peut être par exemple des personnes qui travaillent dans la forêt. Et ensuite, on va par exemple faire des animations. Donc ça peut être avec des enfants de votre âge, donc dans la montagne, à la campagne. Par exemple, créer une mare. Donc ça, c'est du vrai travail de terrain.
Moi, sur mon dessin, j'ai fait un sac plastique. J'ai fait une dame qui jetait plein de papier et... Et une personne qui disait que ce n'était pas bien, enfin, il criait un peu. J'ai fait une voiture avec un peu du gasoil, enfin, voilà. J'ai fait des montagnes de déchets. J'ai fait, j'ai fait du feu. Et un chat, il est mort dans le feu. Et il y a une personne qui dit « Oh, le pauvre !» Une tortue, elle a mangé un sac plastique. Et du coup, elle est morte. Et c'est-à-dire que dans la mer, il y a beaucoup, beaucoup de pollution. Et après, elle retombe dans le sable. Et puis voilà. Et ça fait des dégâts.
Des dégâts. Et les montagnes de déchets, tu les as fait comment ? Elles ressemblent à quoi ? Pour que les gens s'imaginent ?
Elles sont à peu près de toutes les couleurs parce que ça dépend. Des fois, il y en a à peu près de toutes les couleurs des déchets. Donc.
C'est quoi la pollution lumineuse ?
Alors la pollution lumineuse, donc c'est la trop grande quantité d'éclairage artificiel. Donc artificiel, c'est-à-dire qui est créé par l'homme, qui se retrouve dans la nature pendant la nuit. Comme par exemple l'éclairage donc, des villes par les lampadaires. Ça peut être aussi des éclairages de vitrines, des éclairages publicitaires. Ou même l'éclairage des jardins, peut-être de vos jardins, de vos maisons, donc qui va avoir des conséquences sur la nuit.
Pourquoi la lumière pollue ?
Alors, pourquoi la lumière pollue ? Donc ça, c'est une très bonne question. On ne s'imagine pas que la lumière, ça puisse polluer. Hein, c'est quelque chose qui est assez abstrait. En fait, c'est parce que la planète Terre, elle fonctionne selon un rythme qui est particulier. Donc en fait, il y a des... Vous le savez très bien, il y a des suites de jours et de nuits. Donc des jours et de nuits qui se succèdent, et cela depuis des millions d'années, depuis les débuts de la planète. Et toutes les espèces vivantes qui sont sur Terre... Donc elles sont habituées à ce qui est le jour et la nuit, depuis toujours, depuis des millions d'années. Et donc elles ont, en fait, elles, elles ont appris à vivre en fonction de ce rythme naturel. Et donc, nous, on arrive à une certaine période sur Terre. Donc, l'humain, finalement, il n'est pas là depuis très longtemps sur Terre par rapport à beaucoup d'espèces animales et végétales. Et tout d'un coup, on allume la nuit. Donc, pour toutes ces espèces, hein, que ce soit des plantes, des animaux, eh ben, ça les perturbe complètement et ça va avoir beaucoup de conséquences sur leur mode de vie et sur leur survie aussi.
Quel genre de choses provoquent la pollution lumineuse ?
Alors, c'est essentiellement des lumières qui sont créées par l'homme. Donc, ça ne va pas être le soleil, puisque ça, c'est quelque chose de naturel. Ça va être tout l'éclairage qu'on utilise, hein. Donc l'éclairage de rue, tous les lampadaires. Ça va être l'éclairage qu'on utilise, on va dire, pour s'amuser. Donc, par exemple, pour faire la fête pendant la nuit, mettre des éclairages de couleurs, faire des lampions. Ça va être tout l'éclairage un peu pour faire du commerce, donc les vitrines, les publicités, les façades. Et il y a aussi des éclairages pour faire joli. Donc, par exemple, des églises, des châteaux qui sont éclairés pendant la nuit. Eh bien, tout ça, ça a des conséquences, hein, pour les animaux et pour les plantes.
On se trouve à côté de l'école des dîmes.
On voit une rivière avec des caddies dedans. Des caddies, y a, c'est du plastique, tout ça. Du coup, c'est de la pollution.
C'est pas bien de jeter les déchets ou les caddies, mais...
Pourquoi on ne doit pas polluer la terre ?
Ah, ça, c'est une vaste question. Donc, pourquoi ? Parce que la Terre, c'est notre maison et qu'on n'en a pas d'autre, déjà. Et parce que, en fait, la pollution, c'est quelque chose qui reste pendant très longtemps. Donc, ça peut partir d'un geste très simple, hein, si on va verser un produit chimique, hein, dans une rivière. Pour nous, ça va durer quelques secondes, mais pour la rivière, elle va mettre des années et des années à s'en remettre. Et en attendant, il y a des poissons, par exemple, qui vont en mourir, des oiseaux aussi qui vont en mourir. Et peut-être des animaux qui vont manger les poissons, qui vont eux aussi en mourir. Donc c'est quelque chose qui a beaucoup de conséquences. Donc c'est un petit geste qui peut ensuite être énorme. Et la pollution lumineuse, donc c'est une pollution, puisque ça a des effets sur ces êtres vivants, des effets qui peuvent avoir des conséquences dans le temps, qui sont très importantes. Et donc c'est une pollution dont on ne parle malheureusement pas beaucoup.
Mais les terriens ont bientôt prévu à la fin du monde qu'on allait déménager sur la Lune.
Alors, on ne sait pas encore. Et puis, pour être honnête, la Lune, ce n'est pas aussi bien que la Terre. Il n'y a pas grand-chose en termes de vie. Donc, sur Terre, on appelle ça la diversité biologique. Donc, c'est en fait toutes les quantités d'espèces vivantes qui existent. Il y en a vraiment beaucoup. Et c'est ce qui fait toute la richesse de la Terre, et c'est pour ça qu'on peut y vivre. Et d'ici là, qu'on trouve une planète aussi riche que la Terre, je pense qu'il faudra encore beaucoup, beaucoup de temps. Et puis c'est quand même dommage de l'abîmer, puisqu'on a celle-là.
Est-ce que tu peux me décrire ton dessin ?
Ok, moi j'ai dessiné de la fumée, qui est noire et grise.
Et ça se présente comment ? Comment les auditeurs ils peuvent se représenter cette forme-là ? Tu pourrais la décrire comment ?
Ah, c'est rond. Mm-hmm.
Et pourquoi t'as choisi le noir et le gris ?
Parce que la pollution, c'est de cette couleur.
Ouais, comme quoi, par exemple ?
Comme la fumée.
La fumée, ouais. Les pots d'échappement aussi ?
Oui.
Les voitures.
Le pétrole aussi.
Merci.
La pollution lumineuse dérange-t-elle les animaux ?
Alors oui. Donc c'est une pollution qui va déranger absolument tous les animaux, donc les animaux qui vivent la nuit bien sûr, mais aussi les animaux qui vivent le jour. Donc ça va concerner les mammifères, donc les petits comme les grands, tous les amphibiens. Donc les amphibiens, ça va être les grenouilles, les crapauds, les reptiles, donc les lézards, les serpents, également les oiseaux, donc les oiseaux de nuit et également les oiseaux de jour, et les insectes.
Quels animaux vivent la nuit et ont besoin du noir ?
Alors, il y a beaucoup d'animaux qui vivent la nuit. Est-ce que vous avez une idée, d'ailleurs, du pourcentage d'animaux qui vivent la nuit ?
Je dirais 12.
Je dirais 50.
Je dirais 55.
Alors, vous pouvez encore monter un petit peu.
80 ?
Oui, c'est 80. Donc, vous avez plutôt bien répondu, parce qu'en général, les personnes ont tendance à répondre un pourcentage très faible. On n'imagine pas toute la vie qu'il y a pendant la nuit. Donc 80% des animaux vivent la nuit. Alors la nuit, de façon très large, hein, ça peut être très tôt le matin, très tôt le soir aussi, donc à partir du moment où il n'y a plus de soleil. Et donc en fait, j'ai raté ta question, qui était quels animaux ont besoin du noir. Donc il y en a beaucoup, mais en fait tous les animaux ont besoin du noir pour dormir. Tous les animaux donc, qui dorment pendant la nuit vont avoir besoin du noir. Et ensuite, il y a des animaux qui ont développé des caractéristiques pour vivre la nuit, donc pour vivre dans l'obscurité. Donc ça va être le cas de la chauve-souris. Le chat, tout à fait. Il a une vision nocturne, donc des yeux qui sont adaptés à la nuit. Donc c'est le cas de tous les félins. Il y a la chauve-souris. Est-ce que vous savez quel est son pouvoir, on va dire, nocturne à la chauve-souris ?
Oui. Elle a des oreilles qui peuvent entendre de loin.
Alors c'est presque ça. Donc en fait, elle peut entendre les ultrasons. Donc c'est des sons que nous, on ne perçoit pas. Donc effectivement, elle a une très bonne audition. Et grâce à ces ultrasons, elle peut se repérer dans l'espace. En fait, ça agit comme les sous-marins ou comme les baleines. En fait, elle va lancer un son. Et le son va...
Pour identifier les espaces autour.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc le son va se répercuter, par exemple, sur un arbre, un rocher, et elle va savoir se situer. On appelle ça l'écholocation.
Et à cause de nous, les chauves-souris peuvent plus chasser, les insectes se dirigent vers les lampes, la lumière, la chauve-souris ne peut pas y aller.
Oui, c'est vrai. Donc la plupart des chauves-souris, en fait, ont peur de la lumière, donc elles vont l'éviter. Tandis que les insectes, ils vont être attirés par la lumière, donc effectivement, ils vont se rassembler autour des lampadaires. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui vont mourir hein, parce qu'ils s'épuisent à force de tourner autour des lampes. Donc c'est aussi dommageable hein, pour les insectes. Et donc les chauves-souris perdent leur source de nourriture, puisqu'elles restent dans l'obscurité. À part une espèce. Mais toutes les autres, voilà, on perd de la lumière. Alors c'est une espèce qui s'appelle la pipistrelle. Donc c'est une petite chauve-souris, et c'est souvent celle-là qu'on trouve dans les villes. Donc si vous en voyez une, par exemple... Ici, le soir passé, ben, ce sera une pipistrelle.
Comment les chauves-souris font pour chasser alors qu'ils sont folles ? Oui, j'en ai vu dans la rue qui volaient partout sans réfléchir.
Et bien justement, pourquoi elles volent comme ça ? Parce qu'elles se repèrent non pas avec les yeux, mais avec l'ouïe. Donc en fait, le temps, elles vont envoyer un son en criant. Mais ce son-là, vous ne pourrez pas l'entendre parce que vos oreilles ne le perçoivent pas. C'est des ultrasons. Et ce son, en fait, il va voyager. Il va se répercuter contre un objet. Donc le premier objet qu'il y a dans l'espace. Donc par exemple, imaginons que je suis une chauve-souris. Donc si je crie ici, le son va aller... Il va voyager jusqu'à ce qu'il rencontre quelque chose, le mur. Et quand il va rencontrer le mur, il va revenir. Et moi, je vais l'entendre. Mais pendant ce temps, ça va vite, hein, mais il y a quand même un petit moment de voyage du son, et pendant ce temps-là, la chauve-souris, elle ne sait pas où aller, donc elle va rester sur la trajectoire qu'elle avait avant. Donc c'est pour ça qu'elle vole un petit peu comme ça, en zigzag, contrairement aux oiseaux hein, qui volent droit.
Pourquoi les animaux ont besoin du noir ?
Alors, ils ont besoin du noir pour différentes raisons, ça va dépendre de l'animal. Donc je vous l'ai dit, les animaux diurnes, en fait, c'est comme nous. Donc pourquoi on a besoin du noir ? Pour se reposer, pour dormir. Il y a des animaux qui vont avoir besoin du noir pour se nourrir, pour chasser, donc comme la chauve-souris. Ça va être le cas d'un autre animal que vous connaissez peut-être.
L'hibou.
Le hibou, oui, tout à fait. Le hibou ou la chouette. Donc, ils ne sont pas le même animal. Et ben, ils vont avoir besoin de l'obscurité pour chasser parce qu'ils ont des yeux qui sont faits pour voir la nuit. Donc, la journée, il y a trop de lumière pour eux, donc ils peuvent chasser que la nuit. Et il y a des animaux qui vont profiter de la nuit pour bouger, tout simplement, donc se déplacer. Aller, par exemple, de l'endroit où ils dorment à l'endroit où ils mangent. Il y a aussi des animaux qui ont quelque chose de particulier pendant la nuit, c'est la saison de reproduction, donc la saison des amours, donc qui se passe exclusivement la nuit. C'est le cas des crapauds, et c'est le cas des vers luisants.
C'est quoi des vers luisants ?
Alors, le vers luisant, c'est un insecte, c'est un petit insecte qui fait partie de la famille des coléoptères, donc comme le scarabée, qui est connu pour avoir une faculté... Donc un caractère très spécial, c'est celui de briller dans l'obscurité. Vous en avez peut-être déjà vu, hein, des petites taches vertes dans l'herbe, peut-être plus à la campagne. Justement, c'est des grandes victimes de la pollution, donc, que ce soit les pesticides, que ce soit la pollution lumineuse. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est en fait la femelle qui brille la nuit pour attirer le mâle. Donc le mâle, c'est un petit insecte qui vole et la femelle ne vole pas parce qu'elle n'a pas d'ailes. Donc leur seul moyen de communication, en fait, c'est cette lumière. Donc c'est comme si la femelle, en fait, allumait sa petite lanterne et disait « Hé, je suis là !» en espérant que voilà, le mâle qui passe la voit. Et vous savez comment ça s'appelle, ce phénomène ? Donc on appelle ça la bioluminescence. Donc c'est le fait de pouvoir créer de la lumière, produire de la lumière soi-même à partir de rien, en fait, juste de son propre corps. Et donc, si la femelle verbisant éclaire, mais qu'elle est sous un lampadaire, eh ben, le mâle verbisant ne la trouvera jamais. Et donc, ils ne pourront pas se reproduire. Il ne pourra pas y avoir des œufs, et donc les verbisants vont disparaître.
Bah déjà, les crapauds, pour se reproduire, déjà, il y a le mâle qui monte sur la femelle. Et puis, il reste comme ça pendant plusieurs semaines. Et après, ça crée une petite... de la mousse autour d'eux qui va leur servir un peu comme un nid, un peu.
C'est à peu près ça. Et vous savez comment ils se retrouvent, le crapaud mâle et le crapaud femelle ?
Non.
Eh bien, c'est en chantant. Parce que le crapaud chante. Donc, c'est le crapaud mâle. Il a un tout petit bruit, un tout petit chant. Et donc, pendant la saison des amours, en fait, tous les crapauds, ils font une migration, ils retournent dans la mare où ils sont nés. Et ils bougent que la nuit. Et donc, les mâles chantent pour attirer les femelles. Le problème, c'est que quand on les éclaire, ou alors quand ils arrivent sur un endroit qui est éclairé, donc par exemple une route qui va être éclairée avec des lampadaires, eh ben, les crapauds, ils se sentent en danger, puisque tout le monde peut les voir. Et ce n'est pas des animaux qui vont très vite. Et donc, le mâle, eh ben, il s'arrête de chanter. Mais du coup, eh ben, il trouve plus sa femelle, où ça met beaucoup plus de temps. Donc voilà, ça peut être problématique aussi pour cet animal. C'est déjà des espèces qui connaissent des problèmes dus aux autres pollutions, donc notamment la pollution de l'eau, la pollution de l'air. C'est des espèces qui se font écraser aussi, hein, pour les crapauds notamment. Et donc cette pollution lumineuse, elle peut effectivement venir abaisser encore plus les populations et potentiellement les faire disparaître dans certains endroits.
Avec les insectes dans les champs, avec la femelle qui fait de la lumière et le mâle qui vole pour la retrouver, il se retrouve plus.
Oui, c'est ça.
Il n'y en a plus dans la planète.
Alors, il y en a encore, heureusement. Mais disons que le problème de cet insecte, hein, le verluisant, c'est qu'il ne se reproduit qu'une fois par an. Donc c'est assez court. Et ça dure seulement 15 jours, à peu près. Donc c'est-à-dire que la femelle, en fait, elle va briller pendant 15 jours. Et si elle ne trouve pas de partenaire, eh ben, elle va s'arrêter. Et puis, en fait, il n'y aura pas de bébé, il n'y aura pas d'œufs. Et donc là, effectivement, la population va baisser.
Alors, Lina, est-ce que tu peux me décrire ton dessin ?
Oui, ben, il y a du feu et de la fumée, un lapin qui est mort, un oiseau tombé, il y a aussi de l'herbe, les fils électriques et les panneaux qui sont tombés, et un beau soleil avec le ciel.
Et c'est pourquoi tout. Les animaux, ils n'y vont pas bien, là, sur ton dessin ?
Parce que c'est à cause de la pollution.
Quels sont les animaux qui n'aiment pas quand il y a de la lumière ?
Alors, il y en a beaucoup qui n'aiment pas. Donc, tous les animaux dont on a parlé, hein, qui sont, en fait, qui ont développé une capacité pour pouvoir vivre dans la nuit, donc la chauve-souris, la chouette, le verluisant, donc, tous ces animaux, ils vont avoir des problèmes avec la lumière. Donc soit ils vont la fuir, soit ils vont être attirés par la lumière, mais ce sera à leur perte finalement. Un autre exemple, peut-être, c'est celui des oiseaux migrateurs. Donc vous avez sûrement déjà vu passer des oiseaux migrateurs au-dessus de Bourg-en-Bresse, parce que d'ailleurs c'est une région de migration. Donc ces oiseaux, ils passent souvent la nuit. Et donc en fait, pendant leur voyage, ils vont se repérer grâce à la lumière qui vient du ciel, donc la lumière des étoiles, de la lune. Et le problème, c'est qu'en fait, ils vont être complètement perturbés par la lumière qui vient des villes, donc qui revient vers le ciel. On appelle ça le halo lumineux des villes. Et donc, ils vont changer leur route parce qu'ils vont être trompés par toutes ces lumières. Donc, c'est un autre exemple d'animaux qui sont en difficulté à cause des lumières.
Pour vous, est-ce que la pollution lumineuse, c'est grave ?
Eh bien, oui, la pollution lumineuse, c'est un sujet qui est grave parce que ça concerne absolument tout le vivant. Donc tous les animaux vont être impactés d'une manière ou d'une autre. Les arbres aussi vont être impactés par la lumière. Et nous aussi, on est concernés en tant qu'animal diurne, c'est-à-dire un animal qui vit le jour eh bien, la lumière, elle a des conséquences sur nous aussi. Donc, elle va avoir des conséquences sur notre cycle du sommeil, sur notre cerveau. Donc, c'est un sujet qui est assez grave. Et au-delà des conséquences écologiques pour la planète, il y a aussi des conséquences énergétiques. Donc, c'est-à-dire que la lumière, ça consomme beaucoup. Et que là, on est dans on est arrivé dans une période où on se rend compte qu'on consomme trop et qu'il faut réduire nos consommations. Et ben pourquoi pas essayer de réduire cette lumière qui a un impact négatif finalement sur beaucoup d'aspects.
Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les animaux ils puissent dormir en paix?
Et ben quelque chose de le plus simple en fait, c'est d'éteindre la lumière la nuit ou alors tout simplement de ne pas l'allumer. Donc, sachant que c'est quelque chose qui est vite dit, parfois on a aussi besoin de la lumière pour des raisons très précises, à des moments très précis. Donc en fait, le mieux, c'est d'évaluer nos besoins, de se demander, est-ce que j'ai besoin de cette lumière-là à ce moment-ci? Oui, non, et sinon, eh ben, de l'enlever, tout simplement. Donc d'essayer d'équilibrer nos propres besoins humains et finalement les impacts que ça a sur la planète et les besoins des animaux. Donc c'est la cohabitation avec la nature.
Bah, moi, sur mon dessin, j'ai dessiné des camions qui jetaient des déchets dans la mer. Et ces déchets, ils forment le continent des déchets.
C'est quoi le continent des déchets?
Le continent des déchets, bah, en fait, c'est toutes les personnes qui jettent des déchets dans la mer. Et bah, la mer, elle transporte les déchets. Et tous les déchets, bah, ils atterrissent dans le continent des déchets. C'est des montagnes et des montagnes de déchets.
À force de se rassembler, ils ont fait comme un continent.
Ouais. Bah, j'ai fait une grosse montagne avec plein de déchets dedans, de toutes les couleurs. Et après... pour les camions, bah, j'ai dessiné un camion avec des déchets dedans et qui jetait dans la mer.
Et c'est quoi, par exemple, comme déchets, tu penses?
Les sacs plastiques, les bouteilles, tous les plastiques, tout ça, les sacs plastiques, les bouteilles, les canettes, des vêtements, des jouets, des appareils électroniques.
Bah, merci, Myril.
Est-ce que vous faites des choses pour arrêter la pollution lumineuse?
Eh bien, on essaye. Donc, ça passe par notamment la sensibilisation. Donc, c'est en parler, tout simplement. Donc, la pollution lumineuse, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas quelque chose qui est très connu encore. Donc, on en parle un peu plus maintenant qu'il y a 10 ans. Et ben, le mieux, c'est d'apprendre aux gens que la lumière, ça peut avoir des conséquences négatives, parfois, pour la nature. Donc on peut en parler dans les écoles, c'est un lieu qui est très propice pour ça. On peut aussi organiser donc des sorties sur le terrain pour que les personnes puissent se rendre compte aussi de tout ce qui se passe pendant la nuit, enfin tous les animaux qui vont sortir, entendre les sons de la nuit et qui se rendent compte que la nuit finalement c'est pas quelque chose qui est vide, c'est quelque chose qui est plein de vie et qu'il faut préserver. Puisqu'il y a, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a énormément d'espèces qui ont besoin de la nuit pour survivre. Et nous aussi, finalement.
Dans mon dessin, il y a une rivière avec plein de déchets dedans. Il y a un poisson mort à cause d'une bouteille. Il y a une bouteille de plastique. Il y a une cigarette. Il y a un oiseau mort. Et il y a des papillons qui s'envolent. Il y a un arbre mort. Il y a une canette dans le feu, ça crée beaucoup de fumée. Et il y a un arbre, à cause des déchets, il n'a plus fonctionné, il s'est écrasé et ça a créé un peu de fumée.
Et tu m'as dit que là où il était tout?
Tout ramolli.
Ouais, alors tu m'as dit desséché.
Desséché. Il y a des papiers qui volent, un papier qui est coincé sur l'arbre.
Et t'as utilisé quelle couleur, toi, Ahmed, pour ton dessin?
Bleu, vert, noir, marron, orange... Gris, mais c'est tout.
Merci beaucoup, Amène.
Si vous avez la chance d'aller dans un endroit de nature où il n'y a vraiment pas d'éclairage, regardez le ciel et vous verrez à quel point c'est beau. Et vous verrez la Voie lactée. Est-ce que vous avez déjà vu la Voie lactée?
C'est quoi la Voie lactée?
Alors, la Voie lactée, en fait, c'est une partie de notre galaxie Donc il y a beaucoup, beaucoup d'étoiles. Et donc nous, dans le ciel, de la Terre, on voit cette traînée d'étoiles blanches. Et on appelle ça la Voie lactée. Donc en fait, c'est vraiment un condensé d'étoiles dans le ciel. Et quand on est dans la nature, eh ben, on peut voir toute une ligne comme ça qui à l'horizon. Et on appelle ça la Voie lactée, c'est très joli. On peut voir aussi les planètes, on peut voir la Lune, bien sûr. Et c'est vraiment une expérience inoubliable.
Et ben moi, en fait, j'ai dessiné un arbre en feu à cause d'une cigarette jetée par terre. J'ai dessiné un arbre coupé à cause des constructions. J'ai dessiné un poisson mort dans l'eau qui est à peu près sur la surface. J'ai dessiné des déchets. J'ai dessiné un poisson qui a sa tête dans un sac plastique, un rocher. J'ai dessiné une lièvre qui court pour échapper aux chasseurs, mais j'ai pas encore dessiné les chasseurs. J'ai dessiné une voiture qui pollue, et puis j'ai dessiné un camion qui pollue. Et aussi, j'ai dessiné la fumée de l'arbre et la fumée du tracteur qui avance pour écraser les autres arbres. La pollution de l'air, bah, je l'ai fait en gris. Ce qui pollue, j'ai tout fait en gris de ce qui pollue.
La pollution, c'est pas bien pour les animaux et la nature, tout ça, mais... Mais aux humains, est-ce que ça fait je sais pas, les gêne ou ça leur fait quoi?
Alors c'est une bonne question. Effectivement, donc la lumière, ça a des incidences sur l'être humain. Alors comment expliquer ça? En fait, quand on dort, on a notre cerveau qui fonctionne d'une certaine manière, et pendant la nuit donc et pendant la journée, eh ben il se passe d'autres choses dans le cerveau. Et tout ça, c'est réglé par, par des procédés chimiques, hormonaux. Je ne sais pas si ça vous parle. Et donc, c'est déclenché, en fait, à travers l'œil, par la lumière ou l'absence de lumière. Donc, en fait, si vous voulez, quand il y a la lumière qui va arriver dans votre œil, votre cerveau va se rendre compte que, ah, c'est le jour, il est temps de se mettre en marche. Il est temps, notamment, d'activer le pic d'énergie. Donc, le pic d'énergie, il est à midi. C'est pas pour rien, ça correspond en fait à la lumière naturelle la plus forte, la lumière du soleil. Tandis que pendant la nuit, ben, dès que la lumière s'en va, donc votre œil, en fait, la lumière ne rentre plus dans votre œil, et là votre cerveau se dit, c'est la nuit, il est temps de passer en mode repos. Et donc vous allez en fait, vous allez bien vous reposer dans l'obscurité parce que vous êtes fait pour ça, tout simplement. Donc l'être humain a évolué aussi avec ce rythme, hein, de jour et de nuit. Et si vous êtes soumis à un éclairage artificiel, donc le soir, tard le soir, voire toute la nuit, votre cerveau en fait ne va jamais rentrer dans ce mode réparateur, hein, finalement, ce mode sommeil. Il va rester dans ce mode jour, et vous ne vous reposerez en fait pas bien. Donc votre corps, en fait, c'est quelque chose dont on ne se rend pas forcément compte, mais le corps en fait va être fatigué parce qu'il ne sera jamais en repos total. Et c'est notamment le cas pour ce qu'on appelle la lumière bleue. Donc c'est la lumière qui sort des écrans, des ordinateurs, des télévisions. Donc en fait, c'est en fait pourquoi bleu? Parce que c'est la lumière la plus forte. Elle est dans le soleil. Donc à midi, c'est là où la lumière bleue c'est la plus forte. Même si vous la voyez pas bleue, vous la voyez blanche. Et voilà. Donc si vous avez cette lumière là particulièrement qui va rester avec vous pendant la nuit, ben c'est mauvais pour l'être humain. Et ça peut, au-delà de la fatigue, ça peut causer certaines. Disons, ça peut pas causer, mais ça peut aggraver les risques d'avoir certaines maladies, notamment des cancers.
Alors moi j'ai fait un lac où il y a du plastique et un poisson attaché dans un sac plastique. J'ai fait des bouteilles qui flottent et qui sont dans le lac. Et après j'ai fait une voiture et un camion qui pollue. Après, j'ai fait un arbre qui est en feu à cause d'une cigarette, un oiseau qui est mort, une épluchure de clémentine et une pomme croquée jetée par terre.
Merci beaucoup, Lynn Chanel.
Pourquoi vous vous intéressez à ce sujet?
Alors ça, c'est une, c'est une question difficile, parce qu'il faut s'y intéresser. Donc il faut que des, voilà, que des mesures soient prises, hein, pour que des changements de conscience aussi aient lieu pour améliorer les choses, hein, vis-à-vis de cette pollution lumineuse. Il faut qu'il y ait des personnes qui réfléchissent à diminuer cette pollution, mais aussi à continuer à satisfaire, on va dire, une partie des besoins humains. Donc comment concilier les besoins de la nature et les besoins humains? Et ça, c'est... Ben, il faut passer du temps, il faut rencontrer les gens pour tous ensemble trouver les meilleures idées. Et parce que c'est quelque chose qui est important pour la nature, pour l'environnement. Donc l'environnement, c'est quelque chose qui me tient à cœur tout particulièrement, mais je pense qu'il concerne tout le monde, tout être humain. Chacun d'entre nous ici est concerné par l'environnement. On en fait partie, c'est notre environnement. Et on fait, nous sommes à l'environnement aussi. Voilà. On ne peut pas ne pas s'y intéresser. Ça, parmi plein d'autres problématiques, bien évidemment.
Merci. Merci beaucoup.
Merci.
Merci à vous.
Merci et au revoir.
Au revoir.